Salut, ici Captain Adam Horton pour le balado de l'armée canadienne. Les armes CBRN se trouvent à être le point principal dans les films d'action, soit les armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Pour nous expliquer comment l'armée et les forces armées canadiennes font face à ces menaces, nous avons le major Christian Lepage, qui fait partie de la direction interarmée à la défense CBRN. Bienvenue au balado!
Bonjour.
Les menaces CBRN, ça compte pas mal parmi les affaires les plus effrayantes qu'on fait face en guerre, peut-être aussi dans la dimension civile, qui constituent peut-être des crimes de guerre. Comment est-ce qu'on fait face à ces choses-là, surtout aujourd'hui?
Mais en fait, ce que tu dis, Adam, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça existe depuis longtemps. Dans le temps des années médiévales, les armées utilisaient déjà l'arme biologique en contaminant des puits avec des vieilles carcasses d'animaux, des choses comme ça.
C'est vrai.
Fait que c'est des choses qui existent depuis très, très, très longtemps. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, c'est là qu'on a vu d'autres choses arriver avec les développements technologiques. Fait qu'on a eu l'arme chimique qui est apparue, on a l'arme radiologique avec les bombes sales, des choses comme ça. Puis l'arme nucléaire, mais là, on l'a vu apparaître dans les années, la Deuxième Guerre mondiale, ainsi de suite. C'est là qu'on a vu une augmentation de ce style d'utilisation d'armes-là. C'est une menace qui est sous-évaluée peut-être en Amérique du Nord, parce qu'on est loin de plusieurs foyers où il y a des choses qui arrivent. C'est une menace que les forces canadiennes, on prend ça au sérieux. Puis notre direction, c'est nous qui s'occupons au nom du ministère puis au nom des forces canadiennes de développer la capacité, fait, de développer les politiques, la doctrine, d'acquérir l'équipement, de s'occuper que l'instruction individuelle qui est donnée aux marins, aux soldats puis aux aviateurs soit adéquate pour être capable de répondre à ce genre de menaces-là. Puis d'autres choses qu'on fait au niveau du bureau, mais c'est principalement ce genre de choses-là.
Donc, peut-être pour rentrer un petit peu plus dans la définition des choses, peut-être juste on va réviser chaque élément. Donc, on commence avec un élément chimique. C'est quoi ça?
Des substances chimiques, en fait, il y a quatre catégories. Là. Il y a les agents vésicants, exemple moutarde. Qu'est-ce que ça fait vésicant? C'est un agent chimique qui va irriter la peau. Ça peut créer des ampoules ou des brûlures sévères. Il y a des agents suffocants. Les agents suffocants, exemple le phosgène, va attaquer les voies respiratoires. Puis le mot le dit, suffocant. On va commencer à s'étouffer. Bon, on manque d'air, on a de la misère à faire notre chose. On a des agents hémotoxiques, exemple chlorure de cyanogène. Ça, ça va attaquer le sang. Ça va diminuer la capacité au sang à transporter l'oxygène, c'est-à-dire on va commencer à avoir de la misère à travailler. Puis les derniers, les plus létaux, en fait, là, les agents neurotoxiques. On entend parler dans les films ou des choses comme ça. Exemple, le VX. Ça, ça va attaquer le système nerveux. Puis ça va empêcher au corps de bouger selon ce qu'on est fait pour bouger normalement. Mmh. Ça va attaquer des fonctions, on va avoir de la misère à être coordonné, des choses comme ça. Fait que ça, c'est la partie chimique. La persistance varie de quelques heures à quelques semaines, voire mois, dépendamment du type d'agent. Mm-hmm. Fait que quand on dit non persistant, ben, c'est un petit nuage qui passe, puis
ouais, c'est parti.
C'est rough un peu, mais après ça, on est correct. Puis quand on parle de très persistant, plusieurs mois, mais la substance reste là, ça l'empêche aux gens d'accéder à un territoire donné. Puis c'est là que ça devient de plus en plus difficile à travailler avec ça.
Et aussi biologique?
Ben, les agents biologiques, il y a diverses classes, mais c'est quoi un agent biologique? Ça peut être soit des bactéries, des virus, des toxines, des parasites ou des fungus. Utilisés dans un contexte contre des soldats ou des aviateurs, des choses comme ça, fait contre des soldats, le terme général.
Une arme, effectivement.
C'est ça. Je donne un exemple de bactéries, bon, l'anthrax, le choléra, les virus, le virus de la variole, toxines botuliques, je donne un exemple. Mm-hmm.
Et maintenant, les matériaux radiologiques?
Les agents radiologiques, c'est des agents qu'on trouve principalement dans l'industrie nucléaire, soit des produits dérivés qui est utilisé pour faire de l'électricité. Je donne un exemple.
C'est ça.
Domaine médical. On a tous été à l'hôpital pour des radiographies. On a tous bu un petit liquide à un moment donné, dépendamment de ce qu'on avait à faire. Soit radiographie, bon, un petit liquide. L'industrie minière également utilise beaucoup de produits pour être capable de pénétrer le sol, comprendre c'est quoi la nature du sol. Fait que ces agents radiologiques-là peuvent être utilisés autour d'un système comme une bombe, exemple, une bombe sale qu'on appelle, qui devient une bombe radiologique. Quand ça explose, ça fait des retombées radiologiques. Puis dépendamment de la substance qui est utilisée, ça peut être néfaste pour l'homme ou la population pendant des quelques jours ou ben non, quelques années. Ça dépend de ce qui est utilisé. Puis dernièrement, ben là, on l'a vu tous, on a tous vu le film « Opéra Namur ».
Oui, c'est ça.
L'arme nucléaire, encore là, il y a quatre types de produits, on va appeler ça comme ça. Tu as les neutrons, rayons gamma, les particules alpha et bêta. Fait que dépendamment de qu'est-ce que c'est, ça a des énergies qui sont plus ou moins fortes, puis ils ont des effets néfastes sur le corps humain, sur la population, sur les animaux. Puis c'est tous des retombées de l'effet de l'arme nucléaire.
Donc vraiment, si j'y pense, là, j'ai déjà entendu parler, par exemple, le produit d'une arme nucléaire, tu sais, une pulsation électromagnétique, où ce que les gens disent « Ah, oh, c'est une arme, ça peut comme faire fermer toutes les électroniques », puis c'est comme « Oui ». Aussi, mais tu as une arme nucléaire qui a explosé, puis ça, c'est le plus grand risque. Donc, j'imaginerais, dans le contexte des armes nucléaires, il y a l'explosion, et suite à ça, tu as les aspects radiologiques qui viennent avec.
Oui, mais dans un contexte d'agent nucléaire, là, la bombe est tellement puissante, fait qu'il y a le blast, l'onde de choc va y aller et va revenir. Fait que c'est comme un double effet. Juste en partant, il y a juste ça. T'as une montée incroyable de la température. On parle de millions de degrés. Fait que dépendamment de la proximité du site où est-ce que la bombe a explosé, c'est une incinération automatique, là.
Mm-hmm.
On a tous vu des photos d'archives quand les Américains utilisaient l'arme nucléaire la première fois au Japon. On a vu des photos, puis qu'est-ce que ça a fait. T'sais, c'est vraiment terrible les effets que ça a, là. On a tous vu, ou plusieurs d'entre nous, je devrais dire, ont vu des photos, des vidéos d'archives dans les atolls où est-ce que la communauté a fait des essais en recherche et développement. On voit ce que ça fait, là. C'est vraiment incroyable comme effet. Puis effectivement, ça affecte le spectre électromagnétique. C'est là que ça peut justement là, rendre inopérable des équipements électromagnétiques ou des éléments, des ordinateurs, des choses comme ça.
Donc ça, c'est tous des agents, disons, les catégories dont on a parlé. C'est tous des éléments extrêmement différents les uns des autres. Comment est-ce qu'on met en place une protection qui s'applique à toutes ces choses-là?
Ça, c'est la question. En fait, la personne qui va développer un équipement de protection qui répond à tout, 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 c'est comme le Saint-Gall, il va vraiment faire beaucoup d'argent à ce niveau-là. Fait que l'équipement varie dépendamment du type de menace qu'on a, mais dans les forces canadiennes, on essaie d'avoir une tenue de protection qui va couvrir le plus possible la menace. On a des cartouches filtrantes avec un masque à gaz qui va protéger contre la menace chimique, biologique, un peu radiologique. On a des gants, on a une botte de protection qui va par-dessus l'équipement qu'on a déjà. Fait que ça nous protège, gros, quand même pas pire sur beaucoup de menaces. Fait que la menace bio est couverte, chimique, dépendamment c'est quoi, on est protégé quand même très bien. Radiologique puis nucléaire, en fait, c'est rester loin du site d'exposition. Il y a des règles qu'on fait à l'interne, des TTP, tactiques, techniques et procédures. Si on sait que c'est radiologique, d'avoir le minimum de temps proche d'une source pour justement rester en vie plus longtemps. Mais c'est vraiment ça l'idée principale avec la radiologique ou le nucléaire, de minimiser le temps d'exposition. L'équipement de protection va faire une partie du travail, mais la distance du site va nous aider.
Je pense que pour les gens qui ont vécu l'expérience, si moi je pense à du CBARN, je pense à tout justement mon masque à gaz, puis courir partout, puis là c'est tout embué, puis j'essaie de boire de ma gourde, puis ça va mal, puis c'est comme très difficile à opérer avec. Comment est-ce qu'on essaie de faire une réconciliation avec les besoins de protection et notre capacité de faire du fonctionnement dans des environnements complexes?
C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Adam, parce qu'il y a plusieurs aspects, facteurs de protection, capacité à faire une tâche précise et les avancées technologiques.
Mm-hmm.
Fait que je fais juste regarder, regarde, je suis un tout jeune d'Air Force canadienne, j'ai juste 30 ans de service. J'ai connu 3 versions de la cartouche filtrante qu'on avait à l'époque.
Ouais.
Il y a des standards minimums qu'on doit avoir dans chaque cartouche, si je peux appeler ça comme ça. Ça doit protéger contre une certaine gamme d'éléments chimiques. Mais la capacité à respirer aisément vient de plus en plus facile. La technologie évolue, les produits évoluent, on met ça ensemble, puis on a une meilleure capacité de respiration. Puis oui, effectivement, j'ai fait la même chose que toi. On a couru dans les mêmes contextes.
Oui, c'est ça.
Je suis pas un petit bonhomme, fait que je suis rapidement, façon de parler. Fait que ça fait que c'était tout embouillé. Puis là, avec les dernières versions qu'on a, c'est plus facile. La même chose, équipement de protection, c'était très épais auparavant. Puis là, on essaie d'avoir des tenues plus minces qui ont le même degré de protection, justement pour donner plus de facilité aux opérateurs, aviateurs, marins ou l'armée canadienne, les soldats, à faire le travail avec un minimum d'inconfort possible. C'est sûr que quand on ajoute une tenue de protection, il y a une certaine limitation là, d'emploi ou de capacité à faire de la motricité fine, mais on travaille toujours pour justement diminuer le plus ce genre d'inconvénients-là.
Et ça, c'est toujours une discussion qui prend place au niveau des unités et tout ça avec tous les gens, grosse discussion philosophique. Est-ce que les barbes ont vraiment un impact sur notre capacité de porter d'équipement puis se protéger?
Oui. Puis en tant qu'employeur, on se doit de fournir une solution qui va offrir le plus de protection à tout le monde. Fait que dépendamment des origines culturelles ou religieuses, où il y a différentes morphologies dans le monde qui existent. Fait qu'il y a différents standards qui existent, puis on essaie d'avoir une solution qui s'offre à plus de personnes possibles. Ceci étant dit, on est en train de travailler sur un produit ou sur une solution, en fait, qui va être capable de permettre les gens qui portent soin de turban ou qui ont une barbe importante d'être capable d'avoir un degré de protection. Il y a des barrières à ça. On est en train de travailler pour justement briser les barrières pour être capable d'avoir une bonne solution. Mais le joint d'étanchéité entre la peau du visage et le masque doit exister. Mm-hmm. Fait que si on n'a pas le joint, c'est peut-être avoir quelque chose qui va pousser de l'air à l'intérieur pour justement garder les éléments perturbateurs à l'extérieur du masque, si je peux appeler ça comme ça. Si ça, ça existe, bon, oui, l'espérance de vie peut être prolongée d'un utilisateur qui peut avoir une barbe ou pas. Mais c'est pas juste la barbe. Quelqu'un qui a la forme de tête qui est un peu différente de par rapport à un autre, puis a la difficulté à avoir un joint d'étanchéité parfait, fait face au même challenge, au même défi que quelqu'un qui a une barbe. Donc, on est en train de travailler justement pour avoir une solution qui va offrir plus de solutions, en fait, plus de disponibilité du masque à une plus grande clientèle.
Peu importe le contexte, que ce soit à CBRN ou autrement, dans une situation, disons, haute intensité, c'est vraiment question de donner du temps pour travailler, pour pouvoir arriver à une solution peut-être un peu plus prolongée, disons. Donc, j'imagine qu'aucune solution, c'est une solution à long terme. C'est vraiment de créer des capacités ou de la flexibilité pour pouvoir répondre d'une meilleure manière plus tard, disons.
Oui, puis tu sais, la catégorie générique, les premiers répondants dans la vie civile, les forces canadiennes, on travaille avec la menace. Mm-hmm. On est exposé plus que certains autres types de travailleurs à une menace qui peut nous amener à la fin de la journée à avoir des blessures ou à mourir suite aux besoins du service. Ceci étant dit, on essaie d'avoir l'équipement de protection qui va nous donner un meilleur avantage, rester en vie plus longtemps. Mais à la fin de la journée, là, je vais parler pour les forces canadiennes, on le sait que si on va faire une mission, c'est pas nécessairement tout le monde qui va revenir. C'est la réalité de ça pourquoi on a joint le service. On sait que c'est pas tout le monde qui peut revenir, façon de parler.
Un certain montant de risque associé avec toute activité.
C'est ça. Fait que nous, on essaie d'avoir l'équipement de protection qui va offrir le plus de protection possible sans trop diminuer la capacité à faire le travail. Pour faire un autre analysis, mais un beau sweet spot, là, le point milieu qui va nous atteindre le meilleur bénéfice des deux côtés. Mais il y a un élément de risque que le grand patron des forces canadiennes ou un commandant en théâtre doit être obligé de prendre, c'est la létalité de la menace peut nous amener à perdre des gens. Fait qu'on doit être capable de vivre avec ça.
Quand ça arrive à l'entraînement, comment est-ce que vous faites ça?
Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on s'entraîne? Mais on essaie de reproduire les conditions de travail qu'il y aurait si on avait à travailler dans ce genre d'environnement contaminé-là, si on peut appeler ça comme ça.
OK, oui. Ouais.
Puis on se base sur quoi pour faire ça? Ben, on regarde ce qui se fait dans le monde. Il y a des incidents qui sont arrivés, il y a des accidents, il y a des attaques chimiques ou biologiques qui sont arrivées dans les dernières décennies, dans les dernières années. On fait juste regarder ce qui s'est passé avec M. Navalny dans les dernières années en Europe, en Russie. Ce qui s'est passé en Angleterre, il y a eu plusieurs attaques en France puis en Belgique. Il y a eu l'attaque du sarin dans le métro de Tokyo il y a une trentaine d'années. Il y a eu plusieurs morts. Et l'autre incident qui me vient en tête, c'est le réacteur à Fukushima qui a été, je veux pas dire le mot attaqué, mais c'est un désastre naturel qui est arrivé. Il y a eu un tsunami qui a, les vagues ont débordé le système de protection en place puis il a affecté le réacteur. Le réacteur a eu une réaction en chaîne puis c'est là que ça a créé les explosions. Puis les retombées d'ordre radiologique puis nucléaire qui est arrivé là, par la suite, qu'on a vu, en fait, dans les nouvelles. C'est toutes des affaires qu'on voit. On prend la connaissance militaire, on met ça dans un scénario militaire, puis on se prépare à se défendre contre ça. Je tiens à citer que le Canada, on n'émet pas d'armes offensives à ce contexte-là. On se prépare toujours dans un contexte défensif. Puis dans ce sens-là, on s'entraîne.
Fait que j'imagine que ça implique un peu plus que juste l'armée.
Fait qu'il y a des cycles opérationnels qui se font soit avec l'aviation, la marine ou l'armée de terre. Mais vu qu'on est à l'intérieur d'un gouvernement, on s'entraîne des fois avec d'autres ministères.
C'est sûr, ouais.
Je donne un exemple, là. Staunch Maple, c'est un exercice qu'il y a eu il y a quelques années, c'est cyclique, en fait. Les Forces canadiennes, le ministère de la Défense, puis d'autres départements, on collabore. S'il arrivait quelque chose au Canada, comment est-ce qu'on réagirait? Puis, la dernière affaire que je peux donner, exemple, c'est l'exercice Precise Response. Mm-hmm. C'est un exercice que le Canada offre à l'OTAN. Ça se fait depuis une vingtaine d'années quasiment. À tous les étés, 12 à 15 nations de l'OTAN ou des gens qui sont amis avec nous viennent au Canada s'entraîner. Ça fait que tu as entre 300 quelques à 500 spécialistes CBRN qui viennent s'entraîner dans des conditions réelles avec des vrais produits toxiques pour vraiment s'assurer que les tactiques, les techniques puis les procédures, comment est-ce qu'on s'entraîne, doivent être suivies pour assurer à la fin de la journée que ce soldat est encore en vie.
En parlant un peu du côté civil des choses, où est-ce qu'on se trouve en termes des forces ou en termes de l'armée dans la dimension d'interagir avec les répondants civils?
Il y a une différence. Puis quand que, justement là, la population civile demande au gouvernement canadien d'employer les forces canadiennes, nous, on parle à la haute direction des forces canadiennes, il y a de l'information à avoir, c'est quoi la menace. Dans le monde, puis j'aime pas ça dire le monde, dans le monde civil, dans le monde militaire, mais les premiers répondants sont exposés à des accidents plus qu'un incident de nature terroriste ou de, tu sais.
Oui, c'est sûr.
Tout ouais. peut arriver.
Oui.
Fait que dans la population civile, il y a des équipes de sécurité en matière dangereuse. Hazmat, comme on apprend des fois, là.
Mm-hmm.
Bon, mais dans un contexte hazmat, premier répondant, pompier, la menace est plus sur certains types de produits qu'on va trouver un peu plus couramment que gaz moutarde, on va appeler ça de même, juste pour faire un analogue. Fait que dans ce sens-là, leur équipement de protection est plus axé sur les matières dangereuses. Le mien, mon équipement de protection est plus orienté contre la menace CBRN. Dans certains cas, je peux aider. Dans d'autres cas, je peux pas aider. Juste parce qu'on n'a pas le même équipement. Fait que dans la demande qui se fait, mettons, le premier répondant dit, on va avoir besoin des forces canadiennes, nos ressources sont épuisées. Faut savoir qu'est-ce qu'on fait à faire avec. Et là, soit que je fais un achat pour changer certains paramètres d'équipement de protection que j'ai.
Mm-hmm.
Puis on est capable d'entraîner notre personnel puis continuer à aider la population, le gouvernement du Canada ou les provinces comme telles.
Je dirais que la vaste majorité des soldats ont un certain contact avec de l'entraînement dans ce domaine-là parce que on a tout essayé le masque à gaz, on a passé dans le gas hut comme tel. Comment est-ce qu'on se prend pour s'assurer le niveau de compétence requis dans les soldats? Comme quelles étapes est-ce qu'on prend?
Il y a des qualifications de base qu'on doit revalider à tous les ans. Ou à 2 ou 3 ans, dépendamment là, d'autres organisations. Fait que la chambre à gaz, est-ce qu'on est capable de boire, de bouger, de faire certaines petites tâches dans un contexte avec le masque à gaz? Ça, c'est de quoi qui est de base qui se fait. Pour les gens qui doivent avoir une formation un petit peu plus poussée, il y a l'École des pompiers et l'Académie CBRN des Forces canadiennes à Borden offre des cours un peu plus spécialisés. Ils ont 7 cours qui est offert là-bas pour les jeunes soldats, les chefs d'équipe, la partie contremaître, je vais appeler, puis un petit peu plus tard, là, pour ceux qui sont au niveau du cadre de la gestion, ils ont des cours également pour être capable de fournir des avis techniques, de la planification, des opérations en environnement contaminé, CBRN, pour être capable de faire ce genre de choses-là. Fait que, dépendamment des cours, ça varie entre 2 semaines jusqu'à 6 semaines. Et ces gens-là, quand ils reviennent dans leurs unités, sont employables pour donner soit des avis techniques ou travailler en petites équipes, comment répondre à certains types de tâches qui peuvent être données en situation d'opération interarmée ou avec le temps ou dans un contexte en théâtre. Et en ce sens-là, on doit s'assurer qu'on a une interopérabilité entre nos forces puis les forces des partenaires. Quand on dit « je vais fournir une équipe de décontamination », on a les mêmes standards. Bon, je suis capable d'avoir une idée de « OK, je vais avoir une équipe polonaise avec une américaine puis un français. » Ils vont être capables de me donner ce genre de capacité-là avec un « throughput », avec capacité à réagir à un type de tâche selon des standards que je connais.
Et comme si je pense, là, si on voit un gaz jaune qui s'approche de nous, là, ça prend pas un génie pour figurer que c'est un risque. On est capable de détecter ça. Mais quels autres outils nous sommes disponibles pour s'assurer qu'on fait des bonnes décisions en termes des attentats potentiels par des ennemis qui ont ces armes-là?
Le premier senseur, c'est le soldat. Peu importe son élément, là, aviation, marin ou l'armée de terre, c'est le soldat. Si on voit quelqu'un qui est en difficulté puis on n'a pas entendu de balles ou de buts siffler autour de nous, il faut se poser des questions. La faune des insectes morts va nous donner une appréciation, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est les premiers senseurs. on a l'équipement de protection. Quand on a un doute qui commence, puis un jugement militaire qui arrive, on a l'équipement qui existe, soit biologique, chimique, radiologique, de détection. On commence à faire les TTP que je parlais un peu plus tôt, selon certains codes, avec différentes équipes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ces choses-là vont nous aider à déterminer il y a une présence biologique ou alors chimique ou radiologique qui arrive, puis dépendamment de ce que c'est, il y a des réactions qu'on doit adopter, soit pour nous ou soit en termes de collectivité. Tu sais, mon équipe de 10 ou 30 ou le commandant, exemple, je sais pas, qui est déployé en théâtre opérationnel, qui a 4000 soldats autour de lui, 5000, ben, il y a des procédures à appliquer pour l'ensemble de sa force. Fait qu'il y a des détecteurs qui existent. Il y a un jugement. On a des outils de synthèse qui vont nous permettre d'avoir le meilleur avis. On a des outils de simulation, de modélisation, simulation pour dire, bon, on pense que c'est ça qui est arrivé. Exemple, le nuage se disperse de telle manière. Il y a des vents qui proviennent du nord-ouest, 30 km/h, humidité à 30 % aujourd'hui. Tout est rentré dans les choses. Puis on a une meilleure compréhension. OK, bon, le nuage devrait s'en aller dans telle direction. On va soit enlever les gens de là, ou si on n'a pas le choix d'être là, mais on va réagir selon les avis qu'on va donner.
Bon, ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir partagé vos connaissances par rapport aux menaces CBRN. C'est bien apprécié.
Ça fait plaisir.
Ça, c'était le Major Christian Lepage, direction interarmée à la défense CBRN. Puis moi, je suis Capitaine Adam Wharton. Prenez soin de vous.